Europe 1.
Ondelat raconte.
Christophe Ondelat.
Incroyable histoire qui offre quelque chose qui est absolument impossible à la radio, c'est-à-dire la possibilité de dire le mot couille plus de 10 fois. Pour débriefer cette histoire, je suis avec Eric Jung, et c'est bien normal parce que c'est de son livre que j'ai tiré cette histoire, Escroquerie légendaire, aux éditions du Cherche Midi. Je précise, Eric, que vous êtes un ancien flic et aussi un ancien journaliste, et pour être dans une immense clarté, je précise que vous avez été mon rédacteur en chef. Cela étant dit, mon cher Eric, de toutes les histoires qui sont dans votre livre, c'est la plus spectaculaire.
Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute. À la fois spectaculaire, à la fois un peu magique quand même, parce que on se pose beaucoup de questions. Comment a-t-il pu réaliser ses greffes, qu'il ait été accepté, qu'il n'a pas été condamné, alors qu'il y a quand même eu des morts, il y a eu des centaines de gens qui ont ensuite été handicapés, etc. Il est passé à travers les mailles de tout ça, et c'est vrai que c'est le côté étonnant de ce personnage, qui est lui-même un personnage étonnant depuis son enfance jusqu'à sa mort, où il va vivre une sorte d'aventure incroyable, et ça dépasse l'entendement, franchement. Romulus Brinkley, il y a lui dans le monde, et point, c'est tout, la preuve, les États-Unis ont bien compris, parce que si il a été poursuivi ensuite, ils ont quand même, parce qu'ils avaient besoin à l'époque de personnages de légende, hein, ils ont inventé tout un tas de personnages de légende, et ben ils ont mis Romulus Brinkley dedans, en transformant sa maison en musée, qu'ils ont classé par l'équivalent de ce qui serait notre ministère de la Culture. Donc vous voyez, c'est quand même...
Vous voulez dire ça, sa maison dans le petit village où il est né, à Sylvain?
Alors, c'est la maison de Del Rio.
Ah, c'est où il est mort.
Voilà, c'est la maison de Del Rio. Oui.
Donc, il y a un musée Brinkley.
Il y a un musée Brinkley qui est visité par de nombreuses personnes, d'Américains. Il traîne une légende aujourd'hui. Alors, il y a ces objets qui sont exposés, tout un tas de séries de photos qui existent d'ailleurs et que... Non, on peut trouver même sur Internet, si vous avez Brinkley, vous allez voir, on le voit opérer, il y a des photos qui existent. Alors il y a tout ça, il y a le fameux herbier dont vous parliez tout à l'heure, qui est une pièce assez émouvante, parce que c'était lorsqu'il était enfant, c'est son père qui lui a appris à découvrir les herbes, etc. Tout ça, c'est quand même étonnant, quoi, parce que c'est quand même un criminel. Puis il y a un criminel qui a causé des morts, mais non. La légende et le mythe ont dominé l'histoire.
C'est plus fort que le crime. Donc vous tombez sur... Je vous avoue franchement, Eric, que je n'avais jamais entendu parler de lui.
Oui.
Mais vous, quand vous vous lancez dans cette recherche, vous tombez naturellement sur lui.
Je tombe naturellement sur lui. Moi, quand j'étais allé aux États-Unis, et j'avais entendu parler de lui. Un ami m'avait posé la question de savoir si je connaissais ce monsieur. Et non, donc à partir de là, ça a évidemment, comme tout journaliste, attisé ma curiosité.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert.
Alors, comment faisait-il ? Ça, c'est quelque chose que vous ne racontez pas dans votre livre et que je ne raconte pas donc dans mon histoire, puisque je n'ai rien utilisé d'autre que votre texte. Comment faisait-il pour réaliser ces greffes ?
Alors...
Sans anesthésie ?
Alors, pour moi, c'est très difficile à répondre. C'était vraiment des actes chirurgicaux. Je suis pas médecin, donc c'est tout ce que j'ai pu savoir. Et ce qui m'a étonné, où j'ai pas malheureusement la réponse, c'est qu'il a entraîné non seulement du personnel médical, des infirmiers, etc., mais dans ses cliniques, quand il avait des cliniques, faut vous donner la dimension, il faut se remettre dans le contexte, ça paraît tellement fou. La petite ville où il était, il avait monté ses cliniques, il y a tellement une monde avec les autres cliniques, ils ont même monté une gare qui amenait des trains des autres États des États-Unis pour que les gens viennent se faire opérer. C'était un truc
dans
de
sa
fou.
Clinique.
Et il avait recruté aussi d'autres chirurgiens. Donc il y a eu d'autres chirurgiens par la suite qui ont été condamnés. Donc c'était, il devait y avoir, à la fin de son expérience de 16 ans, des vrais médecins, des vrais chirurgiens qui ont opéré d'une façon, avec des techniques connues par la médecine et les écoles de médecine, quoi.
Mais rassurez-moi, il utilisait un anesthésique.
Alors oui, c'était le début de l'anesthésie. C'est ce qui a révolutionné. C'était pour ça, quand ces rencontres dont un médecin, dont vous avez parlé tout à l'heure, enfin même deux, qui parlaient de l'avenir et dans la chirurgie esthétique, c'est parce que on venait de découvrir et d'utiliser le début des anesthésions, des anesthésies, et ça se faisait pas du tout juste avant, quoi. Nous sommes au début du XXe siècle.
Oui.
Enfin, hein, fin 19e.
Donc on est au début de l'anesthésie.
Donc c'est avec l'anesthésie.
Et c'est ça qui lui permet de monter son coup.
Il est possible de faire de la chirurgie esthétique dont Brinkley s'est inspiré pour...
Dont la grève des couilles de bouc.
Les grèves des testicules de bouc.
Alors évidemment, Eric, la question qu'on se pose, c'est comment ça a duré si longtemps, ces années. Et évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. C'est-à-dire, au fond, les victimes étaient furieuses, mais elles étaient furieuses dans leur coin.
Mais tout à fait, elles étaient furieuses après, hein, quand il est arrivé à Greenville, etc., qu'ils ont été oubliés. Avec son complice qui était obligé de fuir, ça a été très violent, hein. Ils ont brûlé la maison, etc. Les mécontentements s'exprimaient publiquement, mais ça restait très localisé. Les États-Unis, c'est immense, les États n'avaient pas de contact, en termes de communication les uns avec les autres. Donc, ce qui se faisait là, on ne savait pas ce qui se passait ailleurs, dans un autre État, dans une autre ville.
Ouais.
Et pourquoi ça a duré ? Parce qu'ensuite, il faut savoir que la première fois, quand il va à prison, quand il est tout jeune, et quand il sort de prison au bout des 2 ans de détention,
oui,
il se fait un serment, comme quoi plus jamais il ira en prison.
Ouais.
Qui s'est passé d'ailleurs. Et pour faire ça, il a rédigé un bréviaire du parfait escroc. Alors, le bréviaire donnait des consignes pour éventuellement des élèves escrocs, comme quoi il était d'abord une qualité pour devenir un bon escroc, c'était d'être aimable et surtout de rendre service. Et donc, c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça que ça a pu durer 16 ans. Parce que quand il s'est positionné, comme vous l'avez raconté, contre tous les autres médecins qui, au moment de la grippe espagnole, ne voulaient plus aller soigner les malades.
Ouais.
Lui, il était là, il était reconnu donc comme le docteur Courage. Et à partir de là...
Et c'était stratégique de sa part.
C'est devenu une icône dans la médecine, je suis tenté de dire, entre guillemets, populaire. Et tous les gens se reconnaissaient en lui, quoi. Il est devenu, peu à peu, grâce aux journaux, grâce au Los Angeles Times, une star qui est devenue quasiment une star américaine, quoi.
À la base, à votre avis, il a vraiment le souhait d'être médecin et pas escroc, et il devient escroc par dépit puisqu'il ne pourra pas être vrai médecin ?
Exactement, c'était son rêve. C'était le rêve du môme, du petit môme né en bas d'une montagne des Appalaches. C'était le petit môme misérable, roublard, comme disait le pasteur qui lui a donné un peu d'éducation, mais intelligent. C'était le rêve de cet homme qui trouvait que la médecine, un peu influée quand même par son père, le fameux Rebouteux, mais qui était aussi un grand connaisseur des plantes, qui lui a appris, etc. Donc il avait tout de même une curiosité scientifique. Mais à l'époque, en plus, si vous n'aviez pas d'argent, vous ne faisiez pas d'études.
Ouais.
Il n'a pas eu la chance de naître sous la bonne étoile, et tout ça ne lui a pas été possible. Donc, au départ, il était vraiment sincère de devenir médecin.
Mmh.
Et c'était une façon de réaliser son rêve.
Ouais. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'a semblé très... Enfin, relevé de la psychanalyse. C'est ce besoin de devenir médecin, comme son père ne l'était pas, en vérité. Son père était rebouteux et faisait le médecin. Lui veut devenir médecin, et finalement, fait escroc. Il y a un truc qui est assez psychanalytique pour ce gamin qui a peu connu son père.
Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, l'exemple de son père, qui était d'ailleurs Brinkley, hein, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais c'était aussi, il ressemblait beaucoup à son père sur beaucoup de points, dont c'était un homme excessivement séduisant, paraît-il, et il avait beaucoup de conquêtes comme son père. Et à l'époque...
Ah, c'était une roulette cork, lui aussi.
Oui, lui aussi. Et à l'époque, le métier l'activité, je sais pas comment on peut dire, de rebouteux, était un... un avantage social dans des petites communes où il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien, c'était lui qui faisait tout. Donc ça lui donnait une notoriété et une influence sociale auprès des habitants des villages et des petites villes de l'environnement de Brinkley, etc., qui était très très important. Donc il a l'image du père, c'est, je ne suis pas psychanalyste, loin de là, mais c'est évident. Oui.
Je vous remercie infiniment, Eric Young. Et dites-moi que vous allez écrire un nouveau livre sur d'autres histoires.
Oui.
Au travail, Young.
Merci à vous. Merci
au boulot, beaucoup. Merci beaucoup. Votre bouquin s'appelle « Les escroqueries légendaires ». Il a été publié par les éditions du Cherche Midi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.